Gloire à Dieu. Nous allons prier. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te recommandons ce temps. Nous prions pour que tu te révèles à nous, Seigneur. Parle-nous et agis dans ta grâce et dans ta fidélité, Seigneur. Nous voulons recevoir ta parole, Seigneur, et être touchés, transformés par elle, au nom de Jésus. Amen. Nous lisons Ésaïe 55. Ésaïe 55, à partir du premier verset. Ésaïe 55, à partir du premier verset. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez acheter du vin et du lait. Sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras les nations que tu ne connais pas et les nations qui ne te connaissaient pas accourront vers toi à cause de l'Éternel ton Dieu. Du Saint d'Israël, qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est près. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. À notre Dieu, qui ne se lasse de pardonner. Voilà la parole du prophète Ésaïe au peuple, mais en réalité, c'est la parole du Seigneur Jésus. C'est l'appel du Seigneur Jésus, c'est l'invitation que le Seigneur offre. Le thème de notre partage, notre exhortation ce matin, c'est l'invitation du Seigneur. L'objectif au travers de ce partage, c'est saisir premièrement que le Seigneur invite tous les humains. Vous voyez, il est écrit au verset premier, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez, encore une fois, troisième fois, venez acheter du lait, du vin et du lait sans argent. » Sans rien payer. Alors, on va expliquer rapidement, puisque c'est notre passage qui introduit le message de ce matin, mais nous avons un passage principal qui résume l'idée du Seigneur au travers de l'invitation que le Seigneur nous fait. Alors, le Seigneur dit, venez vous tous qui avez soif. Comme je disais tout à l'heure, l'invitation du Seigneur Jésus s'adresse à tous les humains. Il dit, venez vous tous, et il précise même, au cas où certains diraient, mais moi je ne suis pas digne, mais moi je n'ai pas de moyens. Vous savez, lorsqu'il parle d'argent, je méditais ça en disant, mais pourquoi le Seigneur parle d'argent? Ben, il y a une signification, vous savez, dans ce monde, pour jouir des biens, il faut de l'argent. Pour aller en vacances, il faut de l'argent. Pour manger, il faut de l'argent. Pour manger une bonne pizza, un bon repas que tu aimerais bien manger, il faut de l'argent. Donc, en quelque sorte, il y a un système d'échange qui fait que, le troc qui fait que, il faut payer pour recevoir en retour un service de qualité. Celui qui veut voyager, puisqu'il a des moyens, bah, il va aller en première classe. Il peut aller en classe économique, mais puisqu'il a des moyens, alors il va utiliser ses moyens pour jouir de son confort. Bon, moi, je n'ai jamais été en première classe, mais j'imagine que le service, ah bah, il est aux petits soins. Hein. Je peux vous dire que tu bouges la tête comme ça, une hôtesse vient, un steward vient pour dire « Monsieur, vous désirez ?» Puisque tu as payé. Donc, plus tu payes, plus tu jouis de tes biens. Tu jouis d'une certaine manière d'un confort. Quand tu arrives à l'aéroport, il y a un service qui prend tes bagages, qui te prend en charge. Tu jouis. Alors, quand le Seigneur dit, même celui qui n'a pas d'argent, il peut venir. Bien-aimé, vous voyez l'étendue de l'invitation du Seigneur. Même celui qui n'a pas de moyens, il peut venir. Vous savez, lorsqu'il y a des manifestations et que l'entrée est payante, tu as beau être le cousin de l'artiste qui se produit, si tu n'as pas acheté le billet ou le ticket d'entrée, tu n'entres pas. Il y a une sélection, et la sélection se fait par le ticket que tu as acheté ou qui t'a été donné par ailleurs. Mais tu dois présenter quelque chose pour pouvoir rentrer dans la salle, pour aller voir un match au stade. Tu dois payer. Et là, le Seigneur nous dit, même celui qui n'a pas d'argent, il peut venir. Et il dit, venez acheter et manger. Mais vous savez, acheter, le salut de Dieu, qui peut l'acheter? Alors, il y a une signification. C'est que, bien aimé, même si le salut est gratuit, et nous allons voir tout ce que je dis là, est résumé dans un texte que nous allons lire, qui résume l'invitation du Seigneur. Mais la signification, l'explication, venez acheter, le salut on ne l'achète pas. Mais ce n'est pas parce que nous n'achetons pas le salut que le salut n'a pas un prix. Le salut a coûté à notre Dieu. Qu'est-ce qu'il a coûté le salut? Le don de Jésus-Christ à la croix. Ce n'est pas parce qu'on te donne quelque chose de gratuit que cette chose-là n'a pas coûté à celui qui te donne. Et bien aimé, souvent on se méprend parce que notre intelligence, notre fonctionnement, comment on fonctionne? On se dit généralement, ce qui est gratuit est dérisoire. Vous savez, il suffit que tu ailles au marché ou que tu ailles sur le bon coin, tu cherches une voiture à acheter avec tes critères et la voiture que tu cherches à acheter, on te dit, bon, je la cède. Je pense que si tu es normalement constitué, tu diras qu'il y a quoi là? Il y a une arnaque. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a une arnaque. Comment une voiture 2022 ou 2023 est cédée gratuitement? Même s'il t'explique que tu sais, j'ai hérité, je suis rentier, j'ai hérité de mon père ou de ma mère. Ou... Toi, tu vois ça, tu te dis non, il y a anguille sur roche. Il y a un piège. Donc le salut, même s'il est gratuit pour nous, il a coûté à notre Dieu, puisque Jésus a donné sa vie. Et à cause de cela, Dieu nous fait une invitation. Il nous dit, hein, venez acheter du vin, du lait, l'abondance, sans argent, sans rien payer. Et moi, dans ma version, il y a un point d'exclamation. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, ou là, j'arrive pas à voir d'ici. Mais dans ma version, c'est sans argent. Donc, c'est comme si Dieu était en train de dire, mais imaginez un peu que l'invitation que je vous fais, vous n'avez rien à préparer puisque tout est prêt. Pourquoi, verset 2, pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc. Et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Et j'aime beaucoup ce qui est dit là. Je traiterai avec vous une alliance éternelle. Bien-aimé, c'est ça l'invitation du Seigneur. C'est de traiter une alliance éternelle. Il dit, pourquoi vous pesez l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Vous savez, Luc 16 nous dit que les richesses de ce monde sont des richesses trompeuses. Il rajoute même les richesses de ce monde sont des richesses injustes. Plus tu as de l'argent, plus tu veux en gagner. Vous savez, Ecclésiaste nous dit que l'homme n'est jamais satisfait. Mais en finalité, tout est vain. Plus tu as de l'argent, plus tu vas être... Vous savez, aujourd'hui, il y a les classements Forbes, le magazine. Et toi et moi, nous, on est tranquilles. Mais vous savez, ces gens-là qui sont dans le top 10, dans le monde, mais eux, ils ne sont pas tranquilles. Ils vérifient. Qui est premier ? Bill Gates, Elon Musk, ou tel, Soros. Ben, ils ne sont pas tranquilles. Ils ne sont pas tranquilles. Et le Seigneur dit, pourquoi pesez-vous de l'argent pour des choses qui... Après tout, Matthieu 16, 26 nous dit quoi? Vous savez, le Seigneur tranche. Que servirait-il à l'homme de gagner le monde s'il perd? Après tout, tu as tout. Bien aimé, vous savez combien est estimé, est estimée la fortune de la reine d'Angleterre? C'est colossal. C'est, j'ai envie de dire, c'est inhumain. Inhumain. Mais bien aimé, nous l'avons vu, mourir. Vous savez, si les humains pouvaient acheter l'immortalité, ils pourraient le faire. Mais vous savez, Dieu a fait de sorte qu'il y ait des choses qu'on n'achète pas. C'est ce qu'on a vu le mardi dernier à l'étude biblique. La paix. Qui peut l'acheter? La paix du cœur, je parle de la paix du cœur. Vous savez, parfois tu es assis comme ça, tu te dis, en fait, il y a un petit bonheur, tu as une joie dans ton cœur, puisque tout va bien. Je ne sais pas si ça nous arrive, en tout cas moi ça m'arrive. Donc, parfois, bon, bien sûr, il y a des événements de la vie, il y a le travail, il y a le tracas de la vie qui t'embête pendant que tu as une petite joie. Bon, tu sais, ah, il faut que j'aille faire ça, il faut que je fasse le planning, il faut que je fasse ça, il faut que j'appelle un tel. Mais il y a des petites accalmies comme ça, des petits moments où il y a une quiétude, il y a... T'es tranquille. Tout va bien. Bien aimé, mais cette paix-là, qui peut l'acheter? Nous avons vu Bernard Tapie mourir. Nous avons vu le fondateur d'Apple mourir, 52 ans, 53 ans. Nous avons vu Christian Audiger, peut-être que certains ne le connaissent pas. Moi, c'est une histoire qui m'a beaucoup marqué. Vous savez, Christian Audiger, c'était un jeune français de Toulouse ou Marseille, en tout cas dans le sud. Alors, c'était un jeune qui n'a pas fait d'études spécialement, mais qui avait un objectif, un rêve. Son rêve, c'est curieux, c'était de côtoyer les grands de ce monde. Alors il est monté à Paris, il a commencé à travailler dans la couture. Et chemin faisant, il s'est retrouvé aux États-Unis, à Las Vegas. Et vous savez, il a fini par devenir le couturier de qui? De Michael Jackson. Vous savez, quand Michael Jackson était au firmament, vous savez, à l'apogée. Donc, un petit jeune français du sud de la France. Mais vous savez, quand c'est comme ça, vous savez, à Hollywood, c'est du bouche à oreille. Quand ils voient Michael Jackson avec un costume, une veste, ils disent, tiens, d'où? Forcément, si c'est Michael Jackson qui dit, tiens, call this man. Forcément. Et je crois, à 35 ans, 37 ans, cancer. Il est traité. Il est guéri. Mais récidive, je crois, à 45 ans, 46 ans. récidive foudroyante. Et il est mort. Mais vous voyez, quand vous voyez l'histoire, ce sont des histoires dignes hein, de American Dream, le rêve américain. Un petit jeune français qui n'a pas fait d'études, qui se retrouve à organiser des soirées, à faire des... avec les grands. Mais c'est sans compter la santé. Alors vous voyez un homme comme ça, il y a un goût d'inachevé dans l'histoire. On aurait voulu que l'histoire se continue un peu plus, quoi. Ça s'arrête trop vite. Mais bien aimé, c'est ça que propose ce monde. Pourquoi cherchez-vous à peser de l'argent? À peser de l'argent qui, pour ceux qui ne nourrissent pas. Vous savez, le psaume 127 nous dit, en vain, vous vous levez le matin. Ça commence par, si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent, ils bâtissent. Alors, dans la poursuite du texte, on nous dit, en vain, vous vous levez le matin. En vain, vous cherchez le pain de la douleur. Et ici, le Seigneur nous parle du pain de la vie. Il dit, en vain, vous vous levez le matin. Et c'est ça la réalité, bien-aimé. Vous savez, se lever le matin, tous les matins, c'est un effort. Hein. C'est pas évident. Bon, peut-être qu'il y en a pour qui c'est pas un effort, gloire à Dieu. Mais se lever tous les matins, pendant une carrière peut-être d'une personne 40 ans, je peux vous dire que c'est pas facile. Mais la motivation, c'est que, bon, à la fin du mois, tu auras ton salaire. C'est ça qui te motive. Je pense que s'il n'y avait pas ça, les gens ne se leveraient pas le matin. Mais le Seigneur dit maintenant, en vain vous vous levez le matin puisque tu vas travailler dur pour arriver à la retraite. Et maintenant que tu arrives à la retraite, un an ou deux ans, je connais l'histoire d'une personne hein, qu'on m'a racontée, je ne connais pas la personne, à peine arrivée à la retraite, un an après la retraite, la personne était en bonne santé, sportive, vous savez, qui fait attention à ce qu'elle mange. Un an après la retraite, cancer foudroyant. Mais bien aimé, vous savez, je me mets à la place de ces gens qui entourent, mais ils se disent, mais il n'y a aucun espoir. À quoi bon travailler si dur? En quelque sorte, tu as travaillé pour... Tu as vécu pour ton travail. Tu as vécu pour ton travail. Et quand on pense à ça, bien aimé, on se dit, mais quel désespoir. Encore ici en France, bien-aimés, nous sommes bien lotis. En France, on a des congés, on a des vacances. Payés. On prend 3 semaines, pour certains 4 semaines, en fonction des accords avec le patron. Mais bien-aimés, il y en a, surtout aux États-Unis, c'est parfois 10 jours de vacances par an. Et la personne a 2 boulots. Et quand tu vois ça, et qu'au final, vous savez, je repense, on va passer à notre texte de base, je repense à, certains le connaissent, hein, un des basketteurs que j'aimais beaucoup, Kobe Bryant. Vous savez, Kobe, je suivais un témoignage, hein, il parlait, puisqu'on lui demandait, mais comment tu fais pour arriver à ce niveau-là? Parce qu'il est arrivé à un niveau où les matchs, c'était 40-50 points, un niveau... Et il expliquait, il disait, vous voyez, moi, il donne un conseil. Il dit, le conseil que je donne aux jeunes, c'est que souvent, en plus des séances qu'on a avec le club, pendant mes vacances, ce que je fais, c'est que, il dit, beaucoup, je constate qu'ils se lèvent à 10 heures, ils font leur séance de 10 à midi, ils vont se reposer, ils reprennent à 14 heures, de 14 heures à 16 heures, ils vont se reposer, et ensuite, ils reprennent, peut-être de 16 heures ou de 18 heures à 20 heures, ils vont se reposer. Mais il dit, moi, j'ai rajouté une séance en plus, donc je me lève à 4 heures du matin. Donc je fais ma séance de 4 à 7, je vais dormir, à 10, je me lève, je fais une séance, je vais dormir, et donc au moins 5 entraînements par jour. Et il dit, vous voyez, le rythme que j'ai pris fait que, quoi qu'il arrive, j'ai de l'avance sur mes adversaires, puisque moi, je m'entraîne plus qu'eux. Donc forcément, j'ai de l'avance. Et il dit, vous rendez compte, si vous faites cette série d'entraînements pendant 5 ans, eh ben, vous avez 5 ans d'avance sur votre adversaire. Mais vous savez que cet homme dont je parle, à peine il a pris la retraite, certainement pour se dire, bah maintenant je vais croquer la vie à plein dents, puisqu'il disait, je vais maintenant me consacrer à ma famille, puisque vous savez, ce sont des joueurs d'une trempe internationale qui ne sont jamais chez eux. À peine il prend la retraite, accident d'hélicoptère. Il meurt avec sa fille. Bien-aimé, vous savez, quand je vois ça, je dis, oh là là, quelle tristesse. La Bible dit que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. À peine il prend la retraite, il se dit, mais vous savez, c'est des gens qui ont peut-être 200, 300 millions, 500 millions de dollars. En réalité, ils n'ont pas besoin de travailler. Maintenant qu'il a la retraite, il se dit, bon, maintenant, je vais me consacrer à mes enfants. À suivre les entraînements, à aller à gauche et à aller à droite. Mais à ce moment-là, tu meurs. Vous voyez quel dur labeur. Une vie où tu te lèves tous les jours à 4 heures du matin pour t'entraîner, pour travailler. Restriction, tu ne dois pas manger ça, tu ne dois pas manger ci, tu ne dois pas... Bien aimé, vous savez, la vie d'un athlète, ce n'est pas facile. Hein, c'est dur. Camille Muffa, certains la connaissent. Un prodige nageuse, mais prodige français. Elle s'est dit quoi? Je prends ma retraite. Elle a dû prendre sa retraite à 27 ans, 26 ans, 27 ans, puisque c'est tôt. Mais elle explique que la carrière, tu commences ta carrière à 7 ans, 8 ans. Et tous les jours, tu passes peut-être 5 heures dans le bassin, été comme hiver. Hein. Elle dit, mais vous savez, l'hiver, tu n'as pas envie de nager. Hein. En plus, tu as le coach qui est là qui dit, allez, on y va, allez. Il dit, mais t'as pas envie. Mais tu le fais parce que, bon, c'est le boulot. 25 ans, 26 ans, retraite. Et certains se souviennent, hein, elle est morte dans le tournage d'une émission de TF1 en Amérique du Sud. Bien-aimé, c'est ça que le Seigneur dit là. Vous voyez quelqu'un comme ça qui a souffert, puisque tu n'es pas un enfant comme les autres. Puisque quand les autres vont jouer au parc, vont au cinéma, toi, tu es à l'entraînement. Quand les autres vont manger au McDo, ben toi, tu ne peux pas manger puisque le coach va prendre la balance pour te peser. C'est de la souffrance. Mais imaginez maintenant une souffrance pour finir sans profiter. Bien-aimé, c'est triste. Et le Seigneur nous invite. Il nous invite aujourd'hui et il dit, au verset 3, prête l'oreille, viens à moi, venez à moi, écoutez, votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Les promesses faites à David, il dit, je vais traiter avec vous une alliance. Il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse de pardonner. Bien-aimé, l'appel, l'invitation du Seigneur, c'est de revenir à l'Éternel. Comment que le méchant, verset 7, abandonne ses voies? Que l'homme d'iniquité abandonne cela. Nous lisons notre texte principal qui est dans Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22. L'invitation du Seigneur. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Et il dit, verset 1, hein, verset 2, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas revenir. Il envoya encore d'autres serviteurs, disant, « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors, il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans le chemin, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle de noces fut pleine de convives. On peut s'arrêter là pour le moment. Voilà, bien-aimés, le Seigneur raconte cette parabole. Il dit qu'un homme, un roi, fit des noces pour son fils. Et j'aime beaucoup, on dit, il envoya une première fois ses serviteurs dire, allez chercher les conviés. Les serviteurs reviennent. Ils disent au maître, mais voilà, nous avons fait ce que tu as demandé, mais les conviés ont refusé. Verset 4, il envoya d'autres, bien-aimés. L'invitation du Seigneur est insistante. Vous savez, Dieu insiste, puisque Dieu aime l'homme. Dieu insiste, puisque ce qu'il a proposé à l'homme, c'est la vie. Vous savez, quand tu ne veux vraiment pas donner quelque chose à quelqu'un, mais pour la forme, la politesse, il arrive quelquefois que tu proposes quand même malgré toi. Vous savez, tu as ton petit morceau de gâteau, tu as l'autre qui est en face de toi, qui te regarde bien dans les yeux. Bon, manger tout seul, c'est égoïste. Mais tu proposes quand même. Mais bien sûr, quand tu proposes, tu t'attends à ce que l'autre dise, « Ah non, 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 c'est bon. » Souvent, on propose une fois. Hein. T'en veux ? Non, non, non. Bon. Pourtant, lui aussi, quand il dit « Non, 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 non », c'est le premier non. Par politesse. Donc, toi, tu es poli, tu proposes. Lui, il est poli, il dit non. Mais en réalité, il n'attend que ça. Il attend que tu insistes pour dire, allez, 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 on va couper, on va partager. Hein. Mais vous savez, quand tu n'as pas envie, tu proposes une fois. Hein. Non, 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 ok, d'accord, ok. Donc lui, il sait aussi que, là, le type ne veut pas. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est peut-être moi hein, qui me fais des films. Mais je pense que c'est le cas. Mais vous voyez là, le maître envoie ses serviteurs pour dire aux conviés, allez chercher les conviés. Les serviteurs reviennent pour la première fois pour dire, ils ont refusé. Le maître renvoie encore pour dire, allez chercher les conviés. Et il dit même, il rajoute, hein, verset 4, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes brebis sont tués. Il dit, tout est prêt. Donc, j'ai tout fait. J'ai tout fait, tout est préparé. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de venir et jouir, tout simplement. Bien-aimé, c'est ça l'invitation du Seigneur. Le Seigneur a tout préparé. Vous savez, Jésus dit dans Jean 14, il dit, je m'en vais au Père. Mais faire quoi? Je vais vous préparer une place. tout est déjà préparé. Il dit, j'ai tué mes bœufs, mes bêtes grasses sont tuées. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils allèrent celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Alors ici, il y a beaucoup d'explications, mais on va faire court. Vous savez, comme je disais, l'invitation du Seigneur s'adresse à tous les humains. Et l'invitation du Seigneur, comme je l'ai dit, est insistante. Et cette invitation, elle consiste en quoi? À accepter le salut de Dieu. À accepter la vie que Dieu nous propose. À accepter, comme nous l'avons lu dans Ésaïe 55, l'alliance éternelle que Dieu nous propose. Mais voyez-vous, nous constatons la réponse de ces gens-là. Il y en a qui ne s'inquiètent pas de l'invitation. Il y en a qui tuent même les serviteurs que le maître envoie. Et nous voulons insister sur le verset 5, mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils allèrent celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Nous allons nous attarder sur ce cas-là, puisque les autres cas, en fait, on peut résumer ça rapidement en trois catégories de personnes qui répondent d'une certaine manière à l'invitation du Seigneur. Quand je dis qu'ils répondent, c'est-à-dire qu'ils disent non ou d'autres qui acceptent. Alors la première catégorie, je dirais, ce sont les personnes qui, des clients, qui considèrent que Dieu a besoin d'eux, qui considèrent que c'est du 50-50, c'est du donnant-donnant. Ce sont des gens qui viennent dans l'église pour dire, pasteur, je veux aider l'église. Alors, même si l'idée n'est pas mauvaise en soi, mais vous savez, le Seigneur dit ici, tout est prêt. En réalité, tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à apporter. Si ce n'est toi-même, ta vie, c'est tout ce que Dieu demande. Alors, il y a la première catégorie, ce sont les gens qui considèrent que, bon, c'est un marché, on est associé avec Dieu. Puisqu'il a besoin de monde, et que moi je suis là, bon, on va trouver un arrangement. Il y a la troisième catégorie, ce sont ce que j'appellerais les faux, clairement, puisqu'on dit qu'ils outragèrent les serviteurs, ils les tuèrent même. Ce sont des gens qui ne veulent pas clairement de Dieu. Et on peut les assimiler aujourd'hui à certains, soi-disant, entre guillemets, des gros guillemets, serviteurs de Dieu, qui prônent le nom de Dieu, prêchent au nom de Dieu, mais en réalité, amènent les gens en enfer. Vous savez, l'évangile de prospérité. Jésus en parle, Paul en parle dans Tite, dans Timothée, dans plusieurs passages, où il dit, ce sont des serviteurs du ventre. En réalité, ils utilisent Dieu, mais ils refusent sciemment l'invitation de Dieu. Mais non seulement ils refusent, mais ils tuent même les serviteurs. Vous savez, il y a beaucoup de méga-church, quand tu rentres, tu ne vois pas le nom de Jésus, tu vois la photo du monsieur avec sa femme. Monsieur Tel Ministry, Monsieur Tel Ministry. Quand tu vas sur le site internet, alors tu as l'impression que c'est lui avec lui, sa femme et lui qui travaillent dans l'église. Il n'y a que les deux, partout. L'homme de Dieu par-ci, l'homme de Dieu par-là. Il n'y a pas Jésus. Donc, ils ont enlevé le Seigneur pour leurs propres intérêts. Donc, là, nous sommes dans des cas extrêmes. Mais bien aimé, je veux m'attarder ce matin sur le cas qui nous concerne. Vous savez, ce sont les chrétiens, les habitués, chose de Dieu. Ce sont des gens qui viennent à l'église, qui viennent au culte, le mardi, le mercredi, le dimanche, qui sont réguliers dans les choses de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on nous dit ici au verset 5? Mais sans s'inquiéter de l'invitation. Qu'est-ce que ça veut dire, bien-aimé? Ce sont des gens qui négligent l'invitation du Seigneur. Ils négligent l'invitation. Vous savez, c'est ce qui arrive quand les sociologues parlent du phénomène d'habituation. Quand on s'habitue à quelque chose, on en perd la saveur puisqu'on est habitué. On ne voit plus la particularité de la chose. Vous savez, quand tu es en bonne santé, tu trouves le temps de dire « Ah, j'ai un gros nez. Ah, il faut que je fasse du sport. Ah, il faut que je perde 10 kilos. » Mais tu es en bonne santé. Mais je peux te dire que quand tu as ne serait-ce qu'un orteil ou un doigt qui fait mal, je peux te dire que tu n'as même pas le temps de penser à ce qui te manque. Hein. Tu n'as pas le temps de penser à ça. Quand tu as une dent qui te fait mal, je peux te dire que tu n'as pas le temps de penser, bon, aujourd'hui je vais aller faire ma séance de sport. Tu n'as pas le temps pour ça. Mais vous voyez, il y a des simples choses auxquelles on s'habitue, mais qui perdent leur saveur, comme je disais tout à l'heure. La santé, vous savez, le fait de respirer comme nous sommes assis là, naturellement, bien aimé, c'est un cadeau, c'est la grâce de Dieu. Vous savez, quelqu'un qui est à 50% ou 60% de capacité respiratoire, mais je peux vous dire que lui, tout ce qu'il désire, c'est de pouvoir respirer comme toi et moi. Mais puisqu'on a ça, ça devient normal, ben on néglige. On néglige. Puisque c'est normal, on s'habitue. Demandez à quelqu'un qui a un appareil pour respirer. Je peux vous dire que lui, tout ce qu'il veut, ben, c'est d'être indépendant de tout ça. Et bien aimé, c'est ce qui arrive. Nous insistons sur cette catégorie-là, bien aimé. Sans s'inquiéter de l'invitation. Qui t'invite? C'est le roi qui t'invite. Il a tout préparé. Mais on dit, il ne s'inquiète pas. Oh, ils se disent, ah, pff, on aura toujours l'occasion. Je viendrai une autre fois à ton invitation. Je n'ai pas le temps. Bien-aimé, c'est là que je vais insister, bien-aimé. Le Seigneur nous lance l'invitation. Est-ce que nous sommes comme ces gens qui négligent l'invitation du Seigneur? Tu écoutes la parole de Dieu. Tu sors du culte. Mais tu dis, bon, on verra ça après. Ce qui a été prêché. Lisons un ou sinon deux textes. Luc 9. Luc 9. À partir du verset 57. Luc 9, à partir du verset 57. Où on peut lire d'abord Luc 14, ensuite on revient à Luc 9. C'est la même idée. Hein. Luc 14, ensuite Luc 9. Luc 14, à partir du verset 15. Le texte ici, chez moi, Luc 14, 15, Jésus donne un enseignement sur le festin céleste. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra le repas dans le royaume de Dieu !» Et Jésus lui répondit, un homme donna un repas. Il invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya ses serviteurs dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Vous voyez, le Seigneur parle de la même chose. Mais j'aime beaucoup la version, alors je ne sais pas ce qui est écrit là, je ne vois pas d'ici. Tous unanimement, c'est-à-dire tous sans exception. Tous firent quoi ? Se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ. Je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, Seigneur, je viens de me marier. J'espère que ce n'est pas le cas pour nos just married d'hier. Je viens de me marier, Seigneur. C'est pourquoi je ne puis aller. Bon, on ne voit pas le rapport. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places, dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait, mais il y a encore de la place. Bien-aimé, il y a de la place pour l'invitation du Seigneur. Peut-être que tu penses être de trop. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins le long des haies et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Bien-aimé, l'invitation du Seigneur, le Seigneur veut sauver l'homme. Il veut que sa maison soit remplie. L'invitation du Seigneur, c'est l'écoute de sa parole comme tu le fais ce matin, comme je le fais moi-même ce matin. C'est ça l'invitation du Seigneur. Car je vous dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon souper. Vous savez, cette dernière phrase, je me suis posé la question, mais combien le maître est radical? Il y a un contraste. Vous savez, quand tu organises un festin ou une fête, tu invites des gens, bien souvent, tu invites des gens qui te sont proches. Normalement, tu n'invites pas des inconnus, normalement. Tu as une liste, tel, tel, tel. Ah, j'ai pensé. Parfois même, tu fais en sorte de n'oublier personne, de ceux qui te sont proches. Mais vous voyez là, le maître, à la fin, il dit, personne de ceux que j'avais invités ne goûtera à mon souper. Mais je me suis dit, mais Seigneur, mais pourquoi cette radicalité? Bien aimé, le Seigneur est implacable avec celui qui néglige son invitation. Ces hommes-là, ils ont négligé l'invitation du maître, du roi, de leur ami peut-être. J'irai même plus loin, non seulement négligé, ils l'ont méprisé. J'ai autre chose à faire. Et le maître est offusqué de voir que beaucoup de chrétiens ne donnent pas la vraie valeur aux choses de Dieu. Beaucoup de chrétiens s'occupent de leur vie et Dieu vient comme la cerise sur le gâteau. Beaucoup de chrétiens pensent à eux, à leur carrière, à leurs dons, à leur ministère, à leur appel. Vous savez, c'est la maladie. Quel est ton appel? Mais il néglige Dieu lui-même. Et le Seigneur est offusqué. Nous lisons, le temps passe tellement vite, Luc 9, 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas de lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts enterrer leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur. Permets-moi d'abord d'aller prendre congé de ceux de ma famille. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Bien-aimés, nous voyons la même radicalité du Seigneur. Le Seigneur est radical. Ce que nous disons ce matin, bien-aimés, c'est que face à l'invitation du Seigneur, aucune excuse n'est valable. Aucune. Vous voyez là, dans Luc 9, on est monté d'un cran. L'autre côté, Luc 14, bon, je viens de me marier, bon, je viens... On peut négocier ça. Mais là, les exemples que le Seigneur nous donne là, bien-aimés, tu vas enterrer ton père, mais je pense que même dans notre société française, tu as droit à peut-être un jour, je ne sais pas, le RH vont nous dire, tu as droit peut-être à un jour ou deux jours pour le décès d'un proche. Puisqu'on comprend que c'est normal que tu sois perturbé et que tu aies besoin de prendre du temps, du recul. Donc l'homme vient avec son argument pour dire, écoute, mon père vient de décéder. Il faut que j'aille l'enterrer. Jésus lui dit, écoute, laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, viens et suis-moi. Nous sommes d'accord que, bon, on aurait dit, Seigneur, quand même. C'est une situation exceptionnelle. Le Seigneur dit, non, ça ne compte pas. L'autre dit même, il dit, Seigneur, je veux te suivre, mais il faut que je fasse les choses dans les règles. Permets-moi d'abord d'aller voir ma famille pour dire, pour faire les au revoir. Bien-aimé, vous voyez, là, c'est censé. C'est normal. Mais bien-aimé, l'invitation du Seigneur est tellement grande. Cette invitation, elle consiste à quoi? J'ai dit premièrement, à se repentir, à venir à Jésus. Cette invitation consiste à accepter le salut de Dieu. Mais j'insiste sur le troisième point. Cette invitation, c'est le ciel. C'est ça l'invitation de Dieu, du Seigneur. Il dit, par rapport, qu'est-ce que tu peux mettre en face du ciel pour donner comme argument, dire non. En quelque sorte, il dit, mais donc, tu es prêt à rater le ciel pour les choses de la terre. Bien-aimé, s'il y a quelque chose qu'on peut retenir hein, de ce matin, je te pose la question, le thème, l'invitation du Seigneur, s'il y a quelque chose que tu dois retenir ce matin, c'est que ne laisse rien de la terre t'empêcher d'aller au ciel. C'est ça le message de ce matin, bien-aimé. Aucune excuse. Aucune excuse par rapport au ciel. Aucune excuse n'est valable. Vous savez, j'écoutais le témoignage d'un pasteur en Asie. Et il prêchait sur son thème, je crois que c'était les excuses. Il dit, mais je suis curieux de voir que les chrétiens ont toutes sortes d'excuses qu'ils mettent pour ne pas servir Dieu. Alors, valable ou pas valable, ça c'est discutable. Mais même si on discute entre nous, sachant que pour Dieu, aucune excuse n'est valable vis-à-vis de son service et surtout du ciel. Point. Alors, il raconte qu'il avait dans l'assemblée qu'il dirige, un monsieur qui est patron d'une grande multinationale. Alors, ça fait peut-être 3 mois qu'il ne voyait plus la personne. Pourtant, sa femme et ses enfants continuent à venir au culte. Et donc, il appelle cette personne et dit, mais ça fait 3 mois que je ne te vois pas. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, tu sais, pasteur, ben, je n'ai pas le temps. Moi, je suis entre 2 avions, entre Singapour ou Hong Kong ou New York. j'ai pas le temps de venir au culte. Oh, le pasteur dit, bon, d'accord. Il dit, mais j'ai même pas voulu discuter avec lui puisque il était tellement sûr de lui. Mais vous savez, le monsieur va faire un check-up, un bilan, un examen de santé globale. Donc on vérifie le cholestérol, le sang, le diabète, tout ce qu'on veut. Et il s'avère qu'il y a un problème. Alors je ne sais plus c'était de quel ordre le problème, mais c'était suffisamment sérieux, peut-être un cancer ou un début de cancer. Alors là, le médecin lui dit, donc, mais il dit, oh, mais docteur, mais moi je ne peux pas, moi je suis par mon travail, il faut que je sois à gauche, à droite. Il dit, écoutez, vous devez prendre du temps pour vous. Et le pasteur dit, c'est curieux, puisque le monsieur m'appelle, il me dit, pasteur, est-ce qu'on peut se voir? Il dit, oui, il n'y a pas de problème, mais ça dépend de tes disponibilités. Il dit, pasteur, je suis disponible tout de suite. Il dit, ah bon, comment ça, tu es disponible tout de suite? Parce que d'habitude, tu n'es pas disponible. Il dit, là, même maintenant, je viens à l'église, dans ton bureau, tout de suite, on se voit. Il dit, il n'y a pas de problème. Et c'est en discutant qu'il se rend compte. Il dit, ah, donc, maintenant que tu es malade, tu trouves du temps pour Dieu. Bien-aimé, voyez comment l'homme fonctionne. Vous savez, il y a des gens, quand tu vois le téléphone sonner, ah, tu sais qu'il y a un problème. Il ne t'appelle jamais quand tout va bien. Il ne t'appelle jamais pour dire juste, ah, bonjour, il fait beau aujourd'hui. Non. Quand tu vois le téléphone, tu sais que là, il y a un problème. Et là, le pasteur qui dit en souriant, il dit, mais vous voyez que toutes les excuses que les humains donnent, je n'ai pas le temps pour ça, je n'ai pas le temps pour ça, en réalité, c'est parce qu'ils n'ont pas du temps pour Dieu, ils ne veulent pas de Dieu. Puisqu'il a suffi d'une maladie. Je peux vous dire que le pasteur dit avec ironie hein, que le monsieur qui n'avait pas le temps, il passait toute sa vie dans les locaux de l'église. Puisqu'il était en arrêt. Donc il était, pasteur prie pour moi, il va là-bas, il prend un livre, il va dans la bibliothèque, il suit un témoignage chrétien. Mais bien-aimé, est-ce que Dieu est obligé de nous amener à ce point-là pour nous faire prendre conscience qu'il est Dieu? C'est ça la question que je nous pose. Beaucoup d'entre nous négligeons l'invitation du Seigneur. On dit sans considérer l'invitation. Beaucoup sont dans ce cas, bien-aimés. Chrétien du dimanche, il a préparé sa chemise déjà le dimanche pour dimanche prochain. Donc Dieu, c'est dimanche. Mais s'il t'arrive quelque chose lundi, mardi, oui, tu as le médecin, tu as le docteur, mais vous savez combien de choses les médecins ne peuvent pas résoudre. Oh là là, oh là là, combien de situations le médecin te dit, bah, on ne sait pas. Et il y a des chrétiens comme ça qui négligent l'invitation du Seigneur. Ou alors Dieu, c'est à la carte. Vous savez, aujourd'hui dans les fast-food, tu arrives, tu fabriques ton hamburger. C'est toi-même qui choisis. Tu dis, allez, cheese, allez, bacon, allez, ça, oignon. Voilà. Donc, tu choisis à la carte, c'est toi qui décides. Et les chrétiens aujourd'hui sont des chrétiens à la carte. Ils choisissent Dieu à la carte. Avec le menu, bon, je veux prendre ça, avec une sauce chili. Je veux prendre, bon, là, je viendrai au culte dimanche. Là, vous savez, aujourd'hui, avec Internet, il y a à boire et à manger. Parfois, tu écoutes, tu dis, bon, Bethléem, il parle du péché, du salut, il parle trop de Jésus. Bon. Je vais aller voir où on parle de comment un chrétien doit prospérer dans le business. Il y a tout, il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger. Et bien aimé, beaucoup négligent l'invitation du Seigneur. L'exhortation de ce matin, c'est moi le premier. Que le Seigneur nous réveille. Parfois, nous sommes dans une torpeur où on s'y plaît. On est dans une situation où on est passif, mais tant qu'il y a tel qui travaille, il y a tel qui travaille, ben moi je suis bien, je suis tranquille. Hein. Bien-aimé, cette attitude-là, c'est mépriser l'invitation du Seigneur. On nous dit sans s'inquiéter. Ils ne se sont pas, ils se sont dit, ce n'est pas mon problème. Ah, même si je ne suis pas là, il y aura les autres qui vont faire, bien-aimés. Sans s'inquiéter. Moi, je suis toujours interloqué lorsque quelqu'un m'envoie un message pour me dire, tiens, je ne serai pas au culte ce soir puisque j'ai rendez-vous chez le médecin. Bah, qu'on se comprenne, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre rendez-vous chez le médecin. Mais moi, par principe, je me dis, si le médecin me propose, vous voulez le matin ou le soir? Bon, le matin, généralement, on travaille certainement, mais je préfère prendre un créneau sur le temps qui ne prend pas mon temps avec le Seigneur. Mais il y en a, c'est tellement automatique. Hein. Ça va de soi, ça coule de source. Donc, tu préfères négliger ton rendez-vous avec Dieu pour bien aimer. Je ne fais pas une Bible, mais je dis tout simplement que le Seigneur nous aide à réaliser qui il est. Vous voyez là, c'est le roi qui invite. C'est même pas le chef du protocole, hein. C'est pas le directeur de cabinet. Non, le roi lui-même, il invite, il dit, allez chercher mes gens. C'est le roi. Et il dit quoi? J'ai déjà tout préparé. C'est le roi lui-même, donc c'est-à-dire on peut imaginer qu'il est venu vérifier, est-ce qu'il y a du ceci, est-ce qu'il y a du vin, est-ce qu'il y a le fromage. Donc tout est prêt, il dit maintenant, allez chercher le monde. Bien-aimé, que le Seigneur nous aide à réaliser qui est celui qui lance l'invitation. Vous savez, Jésus, lorsqu'il rencontre la femme samaritaine, il dit, femme, j'ai soif, donne-moi à boire. Elle dit, mais toi, ton accent, tu ne parles pas comme nous. Toi, tu dois être certainement juif. Mais entre nous et vous, il n'y a pas de rapport. Et tu me demandes de l'eau. Jésus dit, femme, si tu savais qui est celui qui te demande. Bien-aimé, c'est ça l'exhortation d'aujourd'hui. Si nous savions qui est celui qui lance l'invitation. Jésus lui dit, si tu savais qui est celui qui t'appelle. Pardon, il dit à la femme, si tu savais qui est celui qui te demande. Il dit, toi-même tu te précipiterais pour demander, sachant que l'eau qu'il te donne, c'est une source éternelle. C'est ça que le Seigneur dit. Bien-aimés, réalisons. Peut-être que nous nous complaisons dans la situation où nous sommes. Je suis chrétien. Je viens tous les jours. Les choses marchent pour moi. Je prie. J'arrive à obtenir ce que je demande. Je suis régulier. Je suis fidèle. Je fais ceci. Je fais cela. Mais la question d'aujourd'hui, est-ce que tu réponds pleinement à l'invitation que le Seigneur te fait? Ou est-ce que tu te complais dans ta position? Est-ce que tu es dans ton confort? C'est ça la question du Seigneur. Est-ce que tu négliges? Vous savez, lorsque Marthe vient voir Jésus pour lui dire, Maître, mais ne t'inquiètes-tu pas de ce que ma sœur, Marie, me laisse seule pour servir? Jésus dit à Marthe, oh, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses, mais qui ne sont pas importantes, qui sont accessoires. Il dit, une seule chose est importante, c'est de recevoir la parole de Dieu. C'est, en quelque sorte, Jésus dit, Marthe mesure les priorités. C'est ça l'invitation du Seigneur. Qu'est-ce qui est prioritaire? Est-ce de faire à manger maintenant? Ou d'écouter des paroles éternelles qui ne te seront jamais ôtées? Jésus ne reproche pas à Marthe de faire la nourriture, non. Il dit non, là, le moment n'est pas choisi. Il y a un temps pour s'inquiéter de ça. Mais bien aimé, c'est comme si tu reçois le maire de ta ville et tout ce que tu trouves à dire, C'est aller voir ton enfant dans sa chambre pour dire, allez, fais le devoir, range ta chambre. Mais tu sais, tu vas voir ça. Mais là, tu as le maire. Le maire te dit, ben écoute, j'ai 2 minutes. Mais tu vas prendre ces 2 minutes-là pour profiter pleinement. Discuter avec le maire. Le reste, on verra après. Mais là, ces gens-là ont affaire à Jésus. Et bien aimé, lorsque tu viens ici, sache que tu as affaire au Seigneur qui t'invite. Mais est-ce que tu es comme ces gens qui opposent différentes excuses au Seigneur ? Je suis trop jeune. On m'a fait trop de mal. Vous savez, il y a des gens qui font le mal aujourd'hui puisqu'on leur a fait du mal. Ils vont te dire, oh, j'ai tellement souffert que moi aussi je veux rendre à la société. Donc en quelque sorte, illégitime leur méchanceté puisqu'on m'a fait aussi du mal. Bien-aimé, ça ne tiendra pas devant le Seigneur puisqu'il a tout payé. Et il nous invite pour une alliance éternelle. Être avec lui au ciel. C'est ça l'invitation du Seigneur. J'avais prévu qu'on lise Apocalypse 7, verset 15, Apocalypse 21 qui parle. Vous savez, Jean a eu la grâce de voir le ciel, de voir des murailles dorées, de voir que là-haut, il n'y a pas besoin de même du soleil. Puisqu'on nous dit que Dieu lui-même éclairera. On nous dit dans Apocalypse 7 que là-haut, il n'y aura pas de faim. Vous vous rendez compte? Tu vis sans avoir faim, sans avoir soif. Mais où est-ce que tu as vu ça? Dans la présence de Dieu. Bien-aimé, c'est ça l'invitation ultime du Seigneur. Alors vas-tu brader cette invitation pour la terre, pour les choses de la terre? On a lu que beaucoup de ceux qui ont été appelés n'ont pas refusé clairement en disant non, non, ils ont dit bon, on verra ça après. On aura le temps de voir Dieu, oui, on aura le temps après. Bien-aimé, tu ne sais pas ce que demain va produire. Peut-être que là, après, tu fais un accident, tu perds tes facultés cérébrales. Tu ne sais pas. Alors, face à cette invitation, quelle est la réponse que nous donnons, bien-aimé? Le Seigneur nous propose la vie en Jésus. Il nous propose de le servir. Il nous propose de vivre pour lui entièrement. C'est ça l'invitation du Seigneur. Que le Seigneur nous parle à chacun, moi le premier. Nous connaissons tous les domaines qui nous appartiennent, tous les domaines de nos vies que nous avons mis en option, conditionnés au Seigneur en disant « ça, ça m'appartient, ça, ça m'appartient ». Nous savons tout ça, bien-aimés, et l'invitation du Seigneur aujourd'hui. C'est comme il a dit au jeune homme riche, il te manque une chose. Pour entrer, recevoir totalement, jouir de l'invitation de Dieu, il te manque une chose. Alors bien-aimé, je pense que nous savons ce qui nous manque. Si nous ne savons pas, puisque nous sommes honnêtes, prions pour que le Seigneur nous révèle cela. Le Seigneur ne se contente pas des clients qui viennent recevoir, corriger pour dire il a fait telle faute, il s'est trompé là, il n'a pas donné la bonne référence. Bien-aimé, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'entendre la voix de Dieu comme il a dit à Matthieu, comme il a dit aux autres, suis-moi. C'est ça l'invitation du Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta parole ce matin. Et nous prions, Seigneur, pour que tu nous aides à, Seigneur, prendre au sérieux ton invitation ce matin, au nom de Jésus. Seigneur, nous avons vu ce matin que ton invitation est insistante, Seigneur. Tu insistes parce que tu nous aimes. Puisque Jésus a tout accompli à la croix pour notre salut. Tu insistes parce que Jésus s'est donné pour les pécheurs que nous étions autrefois. Tu insistes parce que tu nous aimes et tu veux être avec nous, Seigneur. Tu veux t'occuper de nous ici-bas, sur terre, comme étant notre papa. Mais tu veux surtout, Seigneur, que nous puissions nous réjouir avec toi au ciel. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides. Tous ceux qui, ce matin, ont réalisé qu'ils ont négligé ton invitation, l'invitation à te suivre, Seigneur. Peut-être que nous te suivons déjà, Seigneur, mais selon nos conditions à nous, Seigneur, nous prions pour que tu nous aides ce matin à prendre conscience que toi seul es digne d'être adoré, d'être glorifié. Nous te demandons pardon, Seigneur, de nous être inquiétés d'autre chose, tout en négligeant, Seigneur, ton invitation. Peut-être que certains parmi nous t'ont servi autrefois. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, dans ton amour, tu insistes, Seigneur, pour qu'ils reviennent à toi aujourd'hui. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds aux...